C'est Sophie. Donc, en ce mois de juillet, on va faire une version un peu différente de Page en Partage, puisque ce que je voudrais, c'est vous partager la lecture d'un livre qui m'a beaucoup impressionnée. Donc, il s'appelle L'Habitant et son auteur, c'est Pierre Vidotte. Donc, Pierre Vidotte est un poète bien connu des Réunionnais, puisque c'est lui qui a écrit cette chanson magique qui est Tout est joli, donc que tous les Réunionnais connaissent. Et là, pendant ce temps de vacances, ce temps du mois de juillet, ben, je voudrais vous faire découvrir un peu son livre qui s'appelle L'Habitant et qui décrit une habitation, une grande propriété sucrière. Après l'esclavage, on est au début du XXe siècle, mais on a encore toute une hiérarchie. Et c'est un livre magnifique avec des chapitres courts qui chaque fois décrivent un personnage différent. Donc je trouve qu'elle se prête bien, cette œuvre, à être écoutée radiophoniquement. Alors bonne écoute à vous tous et à bientôt.
Juillet, c'est l'Alizé. Le vent du sud fait courber la hampe des fleurs de canne violine. C'est l'odeur sucrée qu'exhale l'usine. C'est le tintamarre des chênes qui livre au grappin les lourds fagots de canne coupée. C'est la grande allée du domaine qui conduit à travers champs à la grande case. Dans les herbes, sur les bas-côtés, la caille de l'Inde craintive, après s'être laissée deviner de loin par le léger frisson que son passage provoque dans le duvet des herbes tourterelles où elle se faufile et se cache, jaillit à l'approche du passant. Son envol soudain surprend toujours, de même que le tintement de son cri. La grande allée, comme dallée par les ronds galets gris tassés dans le chemin sableux par les roues des charrettes et des camions, montre le chemin, fait le chemin. Il est d'abord très plat, puis en haut d'une côte, il traverse les rails du petit chemin de fer qui transporte les cannes à l'usine. Ce n'est qu'après que l'on voit où il mène. Bordé de quelques manguiers et de flamboyants, il aborde un vieux mur de galets moussus, envahi de cette plante grasse que l'on nomme manger tortue. C'est ce mur qui annonce la demeure. Il l'entoure de sa fausse sécurité, car en fait, facile à escalader, il n'est là que pour signifier de son aspect sommaire et rustique l'emplacement de l'habitation. À un détour du chemin, un portail de bois blanc, ouvragé en arabesque, troue sa carapace argentée. C'est à travers cette dentelle que se montre enfin la case, au bout d'une allée tapissée de fins graviers de rivière. Quatre marches, le bassin, et à l'abri de ces écailles de bardeaux où s'ouvrent des fenêtres aux volets blancs, à l'étage, une grande verrière, une varangue fraîche ornée de capillaires. Telle se découvre dans son écrin de verdure la cressonnière. Le joyeux tintamarre des domestiques appliqué à la fabrication du déjeuner dans la cuisine sombre, n'arrive pas à couvrir le chant du jet d'eau du bassin et le bruissement des graviers étalés sous les pas des enfants qui jouent à loup-cachette. C'est dimanche, et toute la maison attend le retour du maître qui est parti en ville pour la messe. Tout à l'heure, la rumeur du vent dans les champs de canne et de filao sera couverte par le ronflement de la trèfle Citroën qui passera à travers la dentelle du barreau. Puis, on la suivra de l'oreille jusqu'à ce qu'elle débouche dans la cour arrière pour se ranger dans un soubresaut bruyant le long du mur de la cuisine. La grande case, le dimanche, s'étonnait de ne plus être réveillée par les bruits familiers de tous les autres jours. Les grognements du palefrenier remplissant les mangeoires des bœufs, ces vociférations qui accompagnaient le raclement d'une vieille moque sur le fond lisse des nombreuses auges de bois sombres et luisants. Lorsqu'ils étaient remplis de morceaux de bourgeons de canne, mélangés à de la mélasse, que le hachoir avait taillé en rondelles régulières, une odeur sucrée emplissait l'atmosphère. La même odeur que celle qui embaumait la campagne pendant la saison de la coupe. Cette senteur qui trahissait de loin la présence de la plateforme de l'usine. L'odeur des cannes bousculées par le grappin, écrasées par les cylindres des moulins. L'odeur des pousses de canne broyées par les mâchoires des bœufs s'en repaissant. L'odeur du terroir. L'odeur des racines du beau pays. Le cliquetis des pièces du harnais dont on affublait tous les jours tapageur, le bœuf moka, qui, attelé à la vieille charrette, rapportait des champs, des monceaux de paille de canne ou bien, de la ville, d'énormes sacs de maïs, de son ou d'engrais. Souvent, la charrette quittait la cour pleine de fumier que le palefrenier avait recueilli dans le parc à bœufs depuis la veille. L'odorante cargaison était ensuite larguée en bordure d'un champ de maïs, de vohème ou de tomate. Le crissement de ces bandes de roulement en fer que le charron avait serti autour des roues et qui heurtaient les galets de la cour et s'y frottaient, agressant ainsi les oreilles et les nerfs des habitants. Le claquement du moyeu des roues contre le platelage. Les borborygmes, les glui-glu et les yak-hu du charretier, encourageant tapageur, assujetti dans les brancards. Le grincement de la porte du garage, quand le mécanicien l'ouvrait pour préparer la prima stella qui venait ensuite se ranger le long de la bordure de galets en forme de galette à moitié enterrée, qui formait une sorte de feston le long du patio arrière et du mur de la cuisine. La bruyante envolée des volailles que Voula libérait du poulailler sombre où elles avaient passé la nuit et qu'elles quittaient en caquetant dans d'innombrables floquements d'ailes. La grande case, le dimanche, s'étonnait de l'absence de ces bruits. Elle était surprise, en revanche, de percevoir, portés jusqu'à elle par la brise de terre, tous les sons de messe, d'entendre le gloussement plaintif des tourterelles malgaches dans les grands champacs du verger, le mugissement d'une vache à l'étable. Ce matin-là, elle s'était éveillée au chant du coq chatigant d'Antoine, le régisseur, son plus proche voisin. Elle émergeait de son sommeil comme ses tourelles émergeaient du verger. Ce bouquet de grands arbres, cet îlot vert très sombre qui, dans l'immensité vert tendre et violine des champs de canne fleurie, indique l'habitation.
Radio Sud Plus.
Vous êtes toujours sur Page en Partage et je poursuis la lecture de L'habitant de Pierre Vidotte.
Lala. Pour l'instant, Lala, la vieille cuisinière, jette des morceaux de fil à eau dans le brasier du fourneau. Les flammes, libérées de la fonte, éclairent d'un reflet étrange et soudain la cuisine enflammant les toiles d'araignée qui tapissent l'intérieur de la grande hotte toute noire de suie. Lala prend grand soin de cette masse de fonte et de cuivre comme un cheminot de sa locomotive. À portée de sa main, Un chiffon est toujours prêt à faire briller le robinet de la réserve d'eau chaude ou la poignée de l'immense cendrier d'où elle extirpe parfois quelques patates douces qu'elle fait griller dans ce tiroir secret pour récompenser qui le mérite. Lala se plaint souvent de la lenteur de Voula, le vieux gardien comorien, qui ne s'est pas acquitté assez rapidement de la mission qu'elle lui avait confiée, comme celle de tuer la volaille couplumée, qui est en train de mijoter dans sa marmite. Voula, accroupi dans un coin de la pièce, s'accroche à son vieux bâton. Il regarde, pensif, le mince filet d'eau qui s'échappe du robinet dans l'angle opposé et tombe en faisant teinter toute une batterie de cuisine accumulée là, en attendant l'heure de la vaisselle. Après le repas, les assiettes, les plats et les verres rejoindront en cet endroit casseroles, marmites et cuillères de bois. Aux vociférations de Lala, Voula ne bronche pas. Il sait qu'elle se calmera, car c'est sur lui qu'elle compte pour la libérer de cette corvée. Car Voula peut trouver à tout instant une tâche à accomplir dans la cour qui risque de le tenir éloigné le temps qu'il faudra de la cuisine et de la vaisselle amoncelée. Voula ne bouge pas. Il est trop occupé à jouir d'un moment de repos et répond par des grognements incompréhensibles aux paroles déjà bien apaisées de Lala, sa vieille concubine. Le regard de Voula se porte sans les voir sur tous les objets qui l'entourent. La grande plaque de marbre blanc où mademoiselle, celle qu'il appelle maman, roule la pâte des gâteaux qu'elle sait faire si succulents. La grecque de fer blanc où se distille goutte à goutte le café noir qui, après avoir été chauffé au bain-marie, fera des taches au fond des tasses minuscules que la Vangassaille, la Marie-Brizard ou le vieux Rome effacera. Le vieux buffet de pichepin, dont l'angle d'un des battants de porte est noirci à force d'être manipulé par la cuisinière. Il contient tout un monde d'objets et d'ustensiles très utiles à son art. Le chapelet de saucisses que vendredi, le maître a acheté chez Dindin le charcutier. Suspendue par un croc à la poutre de la hotte, pendillée, elle se balance doucement. Elles sont en train de boucaner. Dans une quinzaine, quand elles seront devenues luisantes et brunes, Lala les décrochera et elles iront dans la marmite, rejoindre les oignons, le safran et la graisse pour confectionner avec l'ail, le piment et une pincée de massalé le meilleur des rougailles. Accrochés au mur, les oignons topis n'en finissent plus de mûrir et de sécher. Quelques moulales pendent lamentablement du plafond fuligineux. Ils alimenteront un jour ou l'autre la colère de mademoiselle contre la négligence de Lala. C'est peut-être à cette idée que vous la souriez. Mayaman. Mayaman est assise sur un petit tabouret en paille du gol, les jambes ramassées sous elle, ses genoux supportant un grand van qui contient des bouquets de bret chouchou qu'elle est en train de trier. Chaque frêle tige forme entre les mains de la jeune servante une ogive fragile qui ne résiste pas à la pression des doigts de la jeune fille. Délicatement, entre pouce et index, elle la brise. Il semble que ses mains, pour être plus légères, volent de tige en tige à l'aide des autres doigts qui se déploie en aile de papillon. Les morceaux non choisis sont abandonnés dans un panier posé à ses pieds. Les autres sont recueillis dans une passoire. Celle-ci déborde, ce qui est le signe de la fin de cette délicate opération. La dernière tige rejetée a rejoint le fond du van, qui sera porté en équilibre entre sa hanche et son bras gauche. Les feuilles de tige choisies confectionnent un bouquet insolite, tassé dans la passoire, déposé sous l'eau vive de la fontaine de la cuisine. Mayaman quitte l'ombre de la cuisine et offre sa chevelure brune au soleil qui y joue pour en tirer des reflets moirés. Elle se dirige vers la garenne où une lapine a récemment mis bas une dizaine de petits. En s'approchant de la duveteuse nichée, Mayaman sait déjà qu'elle n'a pas vu ses règles depuis 20 jours. Elle ouvre avec beaucoup de précaution la porte de la garenne qui joue sur des charnières rustiques, 2 bandelettes de caoutchouc. Elle repousse du dos de la main la masse de duvet et de chiens dents entremêlés qui dissimule à merveille la jante grouillante des nouveaux-nés floconneux et rosés et dépose le contenu du van sur le bois rongé par l'urine. La femelle lapine, en battant furieusement de ses pattes postérieures le fond du parc, se réfugie sur la caisse qui a jadis contenu des boîtes de conserve et qui termine sa carrière en nurserie de l'apéro. Mayaman, après avoir refermé la garenne, se dirige vers la cuisine. Elle n'y rentre que pour accrocher son tablier à un clou fiché près de la porte. Puis, résolument, s'avance dans la cour arrière et la quitte en longeant l'amoncellement des rochers géants déposés là, non par la main d'un géant de légende, mais plus certainement par une crue centennale de la rivière du Mât. Les blocs immenses de basalte marquent la frontière entre la demeure et le reste de l'habitation. Mayaman apprécie la fraîcheur de l'ombre dense des bas-damiers. Ils annoncent celle de sa case, qu'elle devine à l'abri des regards, au-delà d'une haie de neigeuses dont les feuilles blanchâtres brillent comme autant d'écailles d'argent à ce moment de la journée. Sa mère l'attendait sous un avocatier, assise dans un pliant. Elle fit signe à sa fille de s'asseoir sur un petit banc qu'elle avait installé entre ses jambes. Mayaman accueillit la proposition avec une joie non feinte. Un sourire d'une indicible tendresse éclaira les traits fatigués de la jeune fille. Elle se laissa couler entre les jambes de sa mère et, prenant appui des coudes sur les genoux de celle-ci, elle ferma les yeux et s'abandonna à ses mains expertes. De temps en temps, elle ouvrait les yeux. Son regard parcourait alors le décor familier de sa vie de tous les jours. Sa case, dont elle ne pouvait profiter que 2 ou 3 heures par jour, entre le service du déjeuner et le repassage qui commençait vers 3 heures tous les après-midi. Mayaman aimait se retrouver dans les jupes de sa mère. Elle goûtait là, assise sur son petit banc, une sérénité, une sécurité qui lui permettait de rêver. Elle ne sentait plus le picotement des griffes de la brosse dans ses cheveux. La mère de Mayaman s'occupait maintenant de contrôler si les cheveux de sa fille étaient habités. De temps en temps, Mayaman sentait une brûlure aiguë de son cuir chevelu, provoquée par l'étirement d'un cheveu, par la chercheuse de poux essayant d'extirper une lente accrochée au filin extrêmement ténu. Les accents de la voix de la maman changeaient, enthousiaste ou désappointé, selon que la découverte était morte ou vivante. Après cette inspection minutieuse, venait l'onction d'huile de coco. D'une petite bouteille, un carpérier, la mère faisait couler au creux de sa main droite l'équivalent d'une petite cuillerée d'huile. Elle posait ensuite la fiole sur le sol, puis joignait ses mains qu'elle enduisait du liquide. Alors ses gestes, qui avaient été jusqu'ici très précis, un peu à la manière de ceux d'un chirurgien opérant, devenaient libres, amples et fantaisistes. Elle appliquait ses paumes contre le crâne de sa fille, et quand celui-ci se dérobait sous ses doigts, il jouait alors librement dans la crinière ondulante, aussi légère que le rideau liquide d'une cascade de la montagne. Accentué par l'huile, les jeux de lumière faisaient couler des reflets moirés, parfois veloutés, dans la chevelure de la malbaraise. Et Mayaman rêvait encore. Se souvenait des jeux interdits avec ses cousins et les fils du maître. Se rappelait également d'autres joies, les parties de colzoiseaux, les pêches chevrettes dans le canal ou la rivière. L'Alizé commençait à se mettre en place, et ça et là dans les champs, on voyait poindre, au-dessus du manteau vert des cannes, une ou deux fleurs qui annonçaient la saison de la coupe, mais aussi celle des vacances des fils de la maison, tous pensionnaires à Saint-Denis. Toujours sur Page en Partage, et j'espère que vous avez accroché sur cette belle histoire, ces différents personnages de l'habitation que l'on découvre, puisque c'est un conte ou un roman qui a été écrit par Pierre-Raphaël Vidotte. Je pense qu'il est temps maintenant de faire une petite pause musicale et d'écouter une chanson dont le même auteur a écrit les paroles.
Dimanche soir à côté petit bazar, un petit fil était là, moi la vue, il était gaillard. Dimanche soir à côté petit bazar, un petit fil était là, moi la battin, yeux pour voir. Son robe était qui vole en l'air, son figure l'était claire, il avait un bon petit odeur. Moi la cosse côté de lui, il a fait son joli. Alors moi la dit, tu es jolie. Ton dans les blancs comme de riz, tu es jolie. Ton yeux brille comme grain litchi, ton yeux les noirs tifi, ton cheveu les noirs aussi. A tifi n'a rien que ton dans que les blancs comme un grain de riz. Tu es jolie, oh tifi, tu es jolie, jolie même, n'a rien que toi même. Pour faire fondre mon cœur. Comme ça même. Tu es jolie, ton dans les blancs comme de riz. Tu es jolie, ton yeux brille comme grain litchi. Ton yeux les noirs tifi, ton cheveu les noirs aussi. A tifi n'a rien que ton dans que les blancs comme un grain de riz. Donne Ali, rendez-vous par à choix, moins l'avenue, mais voilà, mon tifi, là, l'était plus là. Donne Ali, rendez-vous par à choix, moins l'avenue, mais voilà, tifi, là, t'es plus là. Moins la partie sur la digue, là-bas dessus la mer, l'eau était moins dure, m'imagine quand soleil la tombe dans la mer. L'été pareil, mon cœur, moins la pleure, mon zézère. Tu es jolie, ton dans les blancs comme de riz, tu es jolie, ton yeux brille comme grain litchi, ton yeux les noirs tifi, ton
aux cheveux les noirs aussi. Adifina, rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. Tu es jolie, Otifi, tu es jolie, jolie même. N'a rien que tu es même qui fait fondre mon cœur comme ça même. Tu es jolie, ton dent les blancs comme de riz. Tu es jolie, ton yeux brille comme grain litchi. Ton yeux les noirs tifi, nos cheveux les noirs aussi. A tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. A tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz.
Alors voilà, vous êtes toujours avec Sophie sur Page en Partage. On va continuer la lecture et la découverte de ce roman ou conte de Pierre-Raphaël Vidotte que j'ai choisi de vous lire pour ce mois de juillet. Donc on a découvert les lieux, les personnages vont s'installer les uns après les autres. Et puis vous pouvez écouter la jolie plume de Pierre Vidotte qui nous raconte ses histoires, ses personnages de l'habitation.
Voula. Voula était accroupi contre un des murs de la cuisine. Il rêvassait. Et lorsque les flammes du foyer faisaient chanter la marmite noircie, les ombres qui s'animaient dans la charpente lui rappelaient celles qui bougeaient sous le toit, plus bas, du farfar de son grand-père à Angadzidja. Ramassé sur ses talons, les genoux rapprochés, il prenait appui sur son bâton, de ses deux mains et de son front. Dans cette posture, et fermant les yeux, il se revoyait enfant, auprès de lui, dans ce lieu privilégié, si chaleureux et intime à la fois. C'est là que le vieux lui paraissait plus proche, plus cordial. De même la vieille Lala, qui en ce moment confectionnait le repas du maître. Entre sa préparation et la fin du repas, Voula avait coutume de prendre cet instant de repos, qui dépendait très étroitement de la qualité de ses relations avec la cuisinière à qui il servait de marmiton. La difficulté des tâches confiées était en proportion de la gravité des reproches ou des griefs adressés au vieux gardien. La quiétude dont il jouissait aujourd'hui plaçait les relations des domestiques sous les meilleurs auspices, car Voula n'était pas sollicité. Ainsi, Voula s'installa-t-il dans sa rêverie et voyagea-t-il longtemps vers la case de son enfance à Angadzidja. Sa vie à la Grande Comore lui apparut dans un léger brouillard, accompagné des bruits familiers de la cuisine et de l'habitation de Saint-André, mais également des senteurs libérées par l'art de Lala, lesquelles envahissaient tout l'espace et débordait bien au-delà pour marquer le moment des prémices du repas. C'est dans la cuisine d'Angadzidja que son grand-père lui apprit qu'il allait, le lendemain, travailler chez le cadi. Il avait été flatté de l'intérêt que ce personnage lui avait porté. Mais je ne sais quoi dans l'attitude du vieux trahissait quelque événement singulier. Depuis quelque temps, les visites de ce notable se faisaient de plus en plus fréquentes et les discussions entre le vieux et lui de plus en plus animées. Les deux vieillards restaient de longues heures à palabrer, assis sur les gros rochers qui étaient sur le bord du chemin. Voula a bien essayé de savoir ce qu'il se disait. Pour cela, il lissait ses cabris paîtres dans l'herbe du talus du chemin. Et ainsi, avec ses bêtes, il arrivait à se rapprocher assez pour recueillir quelques bribes de phrases. Les mots voyage, réunion, combien de temps furent ainsi entendus, mais ils restèrent mystérieux pour le jeune berger de Cabris. Cependant, un matin de très bonne heure, le cadi arriva dans sa carriole. Le vieux s'en approcha et le visiteur sortit de dessous du banc sur lequel il était assis une petite boîte en fer blanc qu'il déposa sur ses genoux. Il commença alors à donner au vieux ce qu'elle contenait. Il puisait à pleine main dans la boîte. Il tendait ensuite sa main pleine vers le vieux. Celui-ci prenait alors le pan de son lamba et en faisait une sorte de poche dans laquelle le cadi laissait tomber une à une de belles pièces d'argent. Voula apprit plus tard qu'on les nommait piastres et qu'elles avaient beaucoup de valeur, puisqu'il suffisait de deux pour acheter un jeune bouc. Ce jour-là, le lamba du vieux recueillit de nombreuses pièces d'argent. Le soir de ce même jour, dans la cuisine, son grand-père s'approcha de Voula et lui dit qu'il avait réussi à convaincre le cadi de le prendre chez lui pour le faire travailler, qu'il commençait à devenir trop vieux vraiment et que le bonheur de Voula était ailleurs que dans la montagne d'Angadidja, dans un pays qui s'appelait La Réunion, où il irait pendant un certain temps. Puis il reviendrait à Angadidja quand il aurait gagné de nombreuses pièces comme celles qu'il lui montrait, celles qu'il avait vues tomber dans le linge du vieux le matin. Voula n'avait pas l'habitude de se rebeller ni de discuter les décisions de son tuteur. Mais cette nuit-là, il n'avait pu dormir, tellement il regrettait de le quitter et sa case de la montagne.
Page en partage, on poursuit la lecture de L'habitant de Vitot. Donc on a eu déjà un certain nombre de personnages qui nous ont été présentés. Donc le dernier c'était Voula, mais on a eu aussi Mayaman et puis Lala. On va continuer l'exposition de chacun de ces personnages avec Clarelle maintenant.
Clarelle. Il avait reçu de Fortuné l'ordre de sortir la Prima Stella pour se rendre en ville. Aussi, ce matin-là, Clarelle s'était rendu tôt à l'habitation. Il avait quitté sa petite maison sur le chemin de Ravine-Creuse, non loin de la pente Sassy, et avait fait à pied, dans la fraîcheur du matin, les 2 kilomètres qui séparent sa maison de celle de son patron. Il avait toujours sur lui la clé du grand magasin qui servait de garage à la machine. Il l'engagea dans la serrure et fit sauter en 2 tours le pêne qui claqua sec dans le silence. La lourde porte en madrier de sapin tourna sur ses gonds. Le léger crissement qu'elle fit entendre attestait de son entretien irréprochable. Il sortit de sa poche une boîte d'allumettes, en craqua une, et dans la faible lueur, se dirigea vers un appentis où un fanal était posé au milieu d'une collection hétéroclite d'outils et d'objets de toutes sortes. Il l'alluma. C'est alors que la voiture révéla ses chromes et sa peinture noire, si bien lustrée que le reflet du chauffeur était visible sur la portière. Il entreprit alors de faire le plein de carburant. Il ouvrit un placard pour en retirer une longue baguette brillante et graduée. La jauge allait lui permettre de mesurer à la fois le contenu du fût en service et de contrôler si le niveau du bac de la voiture, ce qui lui évitait d'en ouvrir un autre. Le contrôle le dispensa de le faire. Il fixa la pompe dans l'ouverture de l'imposant récipient après avoir introduit le flexible dans la bouche du réservoir de la voiture. D'une main, il la maintenait. De l'autre, il actionnait le levier de la pompe. Ces jauges étaient constituées de deux sortes de grands bocaux en verre de 5 litres qui se vidaient alternativement dans le réservoir de la voiture. Il en déversa ainsi 50 litres. Clarelle portait une blouse en tissu gris, couverte de taches brunes de toutes origines. En fait de blouse, celle de Clarelle était un véritable manteau qui ressemblait à ceux que portaient les premiers fous du volant dans leur machine sans capote. Il sortit alors d'un paquet qu'il avait amené avec lui depuis sa maison un vêtement immaculé qu'il enfila après s'être lavé les mains à un robinet situé à l'entrée du magasin. Il prit également une casquette bleue à la visière en galatite vernissée et en recouvrit ses cheveux gris. Il avait fière allure et portait ce vêtement et son accessoire comme un uniforme. Il aimait le porter, beaucoup plus que celui dont on l'avait affublé pendant son service militaire. Celui-ci était à sa taille. C'est le tailleur de la Ravine Creuse qui le lui avait confectionné. Il était coupé dans un très beau drill bien épais que Mademoiselle Anne-Marie avait rapporté de chez Alzan, rue de l'Église à Saint-Denis. Coupama, le tailleur d'habits, lui avait confirmé sa qualité. C'était du drill anglais qui se tenait bien, ce qui supprimait d'avoir recours à son empesage, opération délicate de trempage et de repassage, que sa femme ne réussissait pas toujours à la perfection.
Cette écoute en cours, sachez que vous êtes sur Page en Partage et que je suis dans la lecture de L'habitant de Pierre-Raphaël Vidotte. Vous pouvez aussi retrouver la bande de façon intégrale sur le site de radiosudplus.fr en téléchargement. Donc vous pouvez télécharger et tout réécouter si vous avez été intrigué et intéressé par ce livre que vous pouvez aussi acheter, commander en librairie. Je vous rappelle le titre, L'habitant de Pierre Vidotte. On va terminer pour aujourd'hui la lecture d'un dernier chapitre et puis cette lecture nous accompagnera tout ce mois de juillet, j'espère, pour votre plus grand plaisir.
La cour. Dans la grande cour, la lumière du jour commençait à révéler l'existence des dépendances et des magasins nécessaires au fonctionnement de l'habitation. Clarelle pouvait distinguer maintenant l'ombre du palefrenier qui s'activait près de l'écurie. Il apparaissait et disparaissait au gré de ses allées et venues pour transporter à l'extérieur des bâtiments en bois d'énormes quantités de fumier qui faisaient grincer la roue de sa brouette. Il déversait son contenu le long du petit mur qui séparait l'écurie de l'étable. Le moment venu, il irait l'épandre dans les champs. Les pigeons qui étaient installés sur l'auvent du grand magasin faisaient entendre leur remue-ménage en voletant depuis leur nid jusqu'au toit de la garenne. Leur doux roucoulement et le crissement léger de leurs pattes sur les pentes de leur perchoir en tôle répondaient au sourd meuglement des bœufs du parc. Ceux-ci commençaient leur lent déplacement vers la mangeoire et l'abreuvoir proche du lavoir. Quand les premiers rayons du soleil atteignirent la cime des grands araucarias, Clarelle apprécia la senteur du café qui s'échappait de la cuisine de Lala. Il voyait sa silhouette aller et venir dans l'embrasure de la fenêtre qui donnait sur l'entrée de cette grande esplanade. Un observatoire de choix pour la cuisinière, à qui personne sur l'habitation ne pouvait cacher quoi que ce soit. Lorsqu'il eut terminé d'apprêter la Prima Stella, il s'installa derrière son volant et actionna le démarreur. Le moteur, encore froid, se fit prier pour faire entendre le bruit harmonieux de ses 6 cylindres. Cependant, le miaulement du démarreur dut lui laisser la vedette dans le concert des rumeurs et des bruissements qui président au réveil de l'abritation. Alors Clarelle embraya la marche arrière et la machine s'ébranla pour dévoiler aux yeux de la cuisinière et du palefrenier le vernis de sa belle peinture noire et ses chromes étincelants. Le palefrenier, appuyé à sa fourche, la cuisinière, accoudée à sa fenêtre, contemplait le spectacle des manœuvres de Clarelle qui amenèrent la Prima Stella à se ranger le long des marches du perron permettant d'accéder à la maison par l'arrière. Un autre témoin, plus discret, avait aussi vu la scène. C'était Fortuné. Il eut un sourire de satisfaction pour la ponctualité du fidèle Clarelle qu'il observait depuis la fenêtre du couloir de l'étage. Le chauffeur, sans même avoir besoin de regarder dans sa direction, sourit également, laissant croire à son maître qu'il ne l'avait pas vu. Cependant, il avait observé qu'à chaque fois qu'il prenait le volant de la prestigieuse Renault, un léger déplacement du rideau de la fenêtre de l'étage et le reflet de ses lorgnons trahissaient la présence de Fortuné. Il pouvait alors quitter sa machine et se diriger vers la cuisine où le délicieux café de Lala l'attendait. L'accueil qu'il recevait dépendait de l'humeur de la cuisinière. Soit la tasse vide était disposée à côté du sucrier sur une petite table sous la véranda à l'arrière de la maison. Dès lors, Lala se déplaçait en personne, le sourire aux lèvres et la grègue à la main, servait le chauffeur. Soit Clarelle s'approchait avec précaution de la porte de la cuisine et après des salutations timides, attendait que Lala lui permette d'accéder à sa cuisine en grognant « Café les coulés !» Clarelle se dirigeait alors vers la grègue fumante déposée sur le bahut de la cuisine, énorme meuble en pichepin. Il en retirait lui-même une tasse, se servait de sucre dans la boîte de banania qui faisait office du sucrier. En faisant chanter la minuscule tasse avec la cuillère qui adoucissait le café, il essayait d'en faire de même avec l'humeur de la cuisinière. Souvent, les efforts déployés, les mots, les flatteries, la compassion habilement nuancée étaient couronnés de succès. Le chauffeur obtenait alors de pair avec les confidences de Lala une deuxième, voire une troisième tasse de café. Parfois, elle ajoutait à toutes ses bontés un biscuit Saint-Louis que le chauffeur enfouissait dans la poche de son manteau. Il le grignoterait pendant une de ses attentes patientes de son maître, composante majeure de son métier et contrainte nécessaire pour le conserver.
Voilà, notre lecture de ce livre « L'habitant » de Pierre Vidotte s'achève pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser un certain nombre de commentaires sur la page Facebook de Page en Partage, me dire si vous avez apprécié ou pas cette lecture, si vous attendez la suite avec impatience. Pour ce qui est des événements littéraires que l'on va retrouver dans l'île, bah, tout le mois de juillet, on a à partir en livre avec un certain nombre d'événements qui sont associés. Vous pouvez consulter l'agenda La Réunion des Livres sur Facebook ou directement sur le site de La Réunion des Livres. Vous pouvez avoir aussi les dédicaces. Donc, je vous l'ai dit pour rappel, le 8 juillet au port à la FNAC Nicolas Pluluen. À Saint-Denis, à la librairie Gérard, toujours le 8 juillet, Jean-Louis Métas sera en dédicace. Expédicte La Obserno sera à la librairie Autrement à Saint-Denis le 8 juillet aussi. Lilipé à Saint-Pierre à la librairie Autrement. Sandrine Molina en même temps le même jour le 8 juillet à Saint-Pierre. Véronique Moussilla à Saint-Pierre également à la librairie Autrement. Et Virginie Binot sera à la FNAC de Sainte-Marie le 8 juillet également. Donc voilà un certain nombre de dédicaces. Il y en a encore toute une liste que je vous invite à consulter sur le site de la Réunion des Livres. Et puis ben dites-nous ce que vous aimez lire, ce qui vous plaît dans la lecture. N'hésitez pas à venir vers nous avec des commentaires sur les livres que vous avez appréciés et venir nous en parler éventuellement si vous êtes libraire, éditeur ou si vous avez écrit quelque chose vous-même. C'est votre émission, l'émission Page en Partage, c'est de faire découvrir le bonheur de la lecture à tous ceux qui nous écoutent. Et ben bonne semaine à tous.